Il va avoir la raison pour laquelle l'histoire de la descendance d'Abraham s'accompagne de l'éventualité de l'exil. Je pense que nous avons déjà maintenant suffisamment de données dans le point de départ de cette analyse. Je vais être obligé de revenir sur certaines perspectives pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui seulement. Mais je pense que nous pouvons maintenant continuer la lecture de l'explication du Maharal. Est-ce que je n'arrive pas à me rendre compte, mais vous entendez suffisamment? Oui ou non? Oui. Alors, nous continuons tout de suite le texte. Rappelez-vous simplement que chaque fois, le Talmud nous a donné un verset très précis. Ça veut dire, c'est une information du récit qui est utilisée comme indice que quelque chose est resté inaccompli dès le début de notre identité. Notre problème avec le Maharal, c'est de comprendre en quoi c'est précisément l'exil qui sera le tikkun, la réparation de cela. Et ça, j'espère que nous avons déjà ce matin, nous arriverons à le comprendre suffisamment. À la construction du tabernacle. Ces matériaux, on a pu se poser la question où on les a trouvés dans le désert. Il y a deux réponses dans le Midrash. Une réponse que je vais expliquer et une que je n'expliquerai que si vous l'exigez. La première réponse est que au moment de quitter l'Égypte, il y a eu un moment de grâce entre les Hébreux et les Égyptiens. Et les Égyptiens ont donné énormément de valeur à tous les niveaux, mais d'abord des bijoux, des tentures, je ne sais pas comment dire, des étoffes précieuses aux Hébreux en leur disant « Vous allez faire votre alia, prenez ça avec vous. » Et puis, c'est avec ces matériaux-là qu'on a construit le tabernacle, dit le premier midrash. Deuxième midrash dit, ce sont des matériaux qui ont existé miraculeusement dans le désert et qui venaient du ciel, avec lesquels on a fait le midrash, le mishkan dans le désert. Bon, les deux midrashim peuvent se comprendre. Ça correspond un peu, si vous voulez, à la construction du troisième temple. À la fin des temps, vous trouverez toujours ces deux sources. L'une vous dira, ça se passera à travers les lois de la nature. Le Makbid. L'autre vous dira, le temple descendra tout construit du ciel. Finalement, ça revient au même. L'un, c'est dans l'existence. Et l'autre, c'est du point de vue de l'essence même, de ce qui est désigné. Donc, vous voyez déjà comment le raisonnement s'organise. À l'origine de l'histoire, quelque chose d'inachevé va apparaître. Il faudra l'achever. Comment? À travers le processus de l'exil. Et donc je resserre un peu les données du problème. Nous avons deux choses à comprendre, selon le Maharal. En quoi c'est un indice d'une faille de la foi? En quoi l'exil va réparer cette faille de la foi? Voilà les données du problème. Oui.
Dans les couches, l'écriture c'est sans vav. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un vav?
Oui, dans un tout autre livre. Où on parle aussi d'une sortie d'exil, puis c'est plus au temps du pharaon, c'est au temps de Cyrus. Et en hébreu, Cyrus se dit Koresh. C'est les mêmes lettres avec un vav. Je voulais simplement faire une allusion. Tu l'as deviné. Bien, alors revenons donc à notre problème. Haré, Shlosha, Deot, Shalosh Deot. Voici donc trois opinions, trois enseignement. Benyanze pour ce sujet. Bekula et tous, c'est-à-dire les trois, Talou Hadavar Bechet, ont relié le problème de l'exil à une faute. Vedafka Bechet Abraham, et particulièrement, plus exclusivement, à une faute d'Abraham, dit le Mar. La difficulté, nous l'avons déjà vu dans le paragraphe précédent. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une explication de type péché originel, vous vous rappelez? Et c'est précisément cela que le Maharal va expliquer maintenant. Mi pene, et cela vient de ce que Kvar Amarnu, nous avons déjà dit, ki minashoresh ve'aikar, que de la racine et du principe ou de l'essence, nimshach hakol, tout procède. Vous comprenez l'idée qu'il y a là. Tout ce qui va se développer dans l'histoire d'Israël procède de la racine de cette identité qui commence avec Abraham. Donc la Torah, en nous racontant le processus de l'histoire d'Abraham, déjà nous explique en germe ce qu'est l'identité du peuple qui va être issu d'Abraham. Chez Imnim Saheshron Bachoresh, s'il se trouve un manque, s'il se trouve un manque dans la racine, ce manque va accompagner ceux qui procèdent, ceux qui procèdent de cette racine, les descendants. Donc ça ne passe pas au niveau des actes, mais au niveau de l'identité. Ce n'est pas un acte donné qui serait la cause de l'exil en tant qu'événement. Ça, ce serait une explication de type péché originel, encore une fois. C'est l'acte en question dévoile une attitude de l'identité. Et alors qu'il n'y a pas d'hérédité des actes, il y a une hérédité de l'identité. Est-ce que c'est plus clair? Les Fichar, c'est pourquoi Dartanzal, leur opinion, l'opinion de nos maîtres, Gamken était aussi, qui va m'arrêter que dans cette vision qu'Abraham a eue, lorsque pris d'un doute, il a demandé un signe, rappelez-vous. Abraham Akol, Dieu lui a montré tout. C'est-à-dire quoi tout? Tout le développement de l'histoire des quatre grands empires dont nous avons parlé déjà. Et qui seront les grandes péripéties de l'histoire à laquelle Israël sera relié par l'éventualité de l'exil. Ça veut dire que dans cette vision, Abraham voit Yahshua Shakol, parce que c'était lui qui était destiné à être la racine de tout. Et c'est pourquoi dans cette vision des quatre empires, à travers les quatre formes du sacrifice, il a eu par allusion aussi les exils. Pas seulement l'exil d'Égypte, et là, mais aussi l'exil qui accompagnerait toutes les étapes de l'histoire des empires, des quatre grands empires. Nous verrons qu'il y a un verset particulier pour l'exil d'Égypte, mais le contenu de cette vision concerne ce même modèle qu'est l'exil d'Égypte, mais dans les quatre empires différents. Et c'est pourquoi les sources qui vont parler de ce chapitre, et en particulier le Maharal dans le livre que je vous avais signalé qui s'appelle Ner Mitzvah, qui concerne Hanouka, va nous montrer l'exil corollaire de l'Empire de Babel, l'exil corollaire de l'Empire de Perse, l'exil corollaire de l'Empire de Grèce et l'exil corollaire de l'Empire de Rome. Et une fois cette vision développée, alors vient notre verset, le verset du chapitre 15. Yadoar, Tedar, Kigiri, Ezar, Hamelet, Laim, ça, c'est l'Égypte. Je reviens un peu sur ce verset. Nous avons vu tout à l'heure, vraiment ce que je voulais dire quand j'ai dû interrompre, que le verset n'avait pas dit ça se passera en Égypte. Il avait dit, et l'indication est importante formellement, Veretz Glolae, dans un pays qui ne leur appartient pas. Mais il y a là une indication que je voudrais reprendre. Voilà. Un chapitre entier qui va nous expliquer l'ascension de Joseph dans la civilisation égyptienne et comment se met en place un système politique de l'Égypte à l'instigation de Joseph lui-même et où, très progressivement, on s'aperçoit que le pharaon va acquérir personnellement la terre des habitants de l'Égypte avec comme exception qui appartenait aux prêtres de l'Égypte. Et l'Égypte va être définie à partir de là comme un pays qui n'appartient pas à ses propres habitants. Eretz Lolahem ne concerne pas seulement les Hébreux, étrangers dans ce pays, mais les habitants du pays qui sont appelés les esclaves du pharaon, les Hébreux étant les esclaves des esclaves. Comment on est là, la différence? Je vous ouvre ici une petite parenthèse. Identification, ce qui va beaucoup frapper, c'est que dans l'histoire des civilisations, c'est lorsque un tel régime quelle sorte de régime politique s'installe quelque part, que c'est l'Égypte pour les Juifs qui y habitent. Et je pense que vous comprenez clairement l'allusion pour le temps contemporain, où la formule même de cette péripétie de l'exigence de la fin de l'exil qui sera employée dans le récit biblique par rapport à l'Égypte. Inch'Allah et Hami renvoie mon peuple. Ça se passe aujourd'hui, précisément dans les pays où le régime politique est celui-là, où la terre n'appartient pas à ses propres habitants. Et j'ai même pas besoin de dire qu'il s'agit des pays soviétiques. Et relisez bien d'ailleurs le chapitre où nous voyons comment Joseph, en économiste très compétent, installe un système marxiste dans les lectures de type marxiste. Si vous voulez, je peux vous donner quelques indications, mais je vous laisse le soin de le faire en travaux pratiques. Et là, vous verrez la différence avec le système de la Torah. C'est que, alors qu'en Égypte, personne n'avait droit à la propriété de la terre, sauf les prêtres. En Israël, c'est l'inverse. La terre appartient au peuple, mais pas aux prêtres. Remarquez cela. Le principe biblique, c'est que le sol appartient au peuple d'Israël, pas aux individus. Et, par exemple, vous avez l'institution du Keren Kayemet l'Israël, qui loue la terre aux individus, mais la terre reste appartenir au peuple d'Israël. C'est bien clair. Et on fait semblant d'avoir une propriété individuelle sur 99 ans. Vous connaissez la règle. Et c'est important de se considérer comme propriétaire d'une parcelle du sol, quel que soit l'étage de l'immeuble à laquelle on habite, dans lequel on habite. Il y a un contrat du KKL qui fait qu'on est censé être propriétaire d'une parcelle du sol, et pas seulement de l'appartement dans tel ou tel étage. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a un secteur privé, il y a un secteur un peu moins privé, un peu plus public, mais voilà quel est le principe. Tilli kolaret, la terre appartient à Dieu qui la donne au peuple d'Israël. Tandis que vous avez cette définition du pays de l'exil, Eret Lolahem, la terre qui n'appartient pas à ses habitants. C'est-à-dire un régime d'oppression. Je vais simplement donner cette indication-là. En principe, dans le temps contemporain, les Juifs pourraient quitter le pays de leur exil. Mais il y a des pays qui ne peuvent pas quitter. Ce sont ces pays-là. On s'arrange pour les acheter à prix d'or. Je ne sais pas si vous savez cela. Suivant les époques, ça coûte tant de sacs de blé de faire sortir un juif de ces pays-là. Il y a des instances qui s'occupent de ça. Et puis, d'autre part, là, on ne peut pas ne pas se rendre compte que l'exigence de la fin de l'exil est sortie de ces communautés-là d'abord. Si vous faites l'histoire du mouvement sioniste, vous verrez que ce sont de ces pays-là que sont sortis les premiers mouvements sionistes. Et ça continue d'ailleurs. Il y a une marque originelle du judaïsme de Russie dans la fondation de l'État d'Israël. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Et c'est là que l'exigence de la sortie de l'exil est la plus difficile. Par exemple, ce que disait le Maharal. Dans cette vision, ce n'est pas seulement l'exil d'Égypte qui est indiqué à Abraham, et encore en préfiguration seulement, puisque le mot de l'Égypte n'est pas dit, c'est le fait qu'à travers l'histoire de toutes les civilisations, l'éventualité de l'exil se retrouvera, encore une fois, dans quelles circonstances, si se dévoile dans la descendance d'Abraham la même faille d'identité qui s'était dévoilée dans sa propre histoire, et que le Maharal avait défini comme étant un scrupule exagéré concernant l'exigence de mérite que Dieu réclamerait. Et oui, il y aurait là, je commence à reprendre un peu l'analyse d'hier matin, une faille de la foi. Vous voyez quel est le paradoxe? C'est précisément chez le premier homme de l'histoire qui a été capable de la foi qu'on va chercher le diagnostic de ce que serait une faille dans la foi. À trois niveaux, vous rappelez, parce qu'il y avait trois promesses, le peuple, la terre, la Torah. Lorsque Abraham va se poser la question de savoir où serait le signe de l'assurance que c'est bien lui qui mérite ces promesses-là, le peuple, la terre, la Torah, rappelez-vous. Alors ils vont dire que Moshe Darchutzal, ainsi que nos maîtres, ont expliqué à propos de notre verset du chapitre 15, Vegam et Agoy Asheria Vodou Dananoré. Donc ils sont asservis pendant 400 ans, et le verset continue en disant, et même la nation qui l'osera asservie, je la jugerai. Or, il y a un mot de trop, apparemment, dans le verset, et même la nation en question, je la jugerai. Il aurait suffi de dire, et la nation qui les aura asservis, je la jugerai. Ce gamme, ce même, c'est pour inclure aussi les autres nations qui seraient dans ce cas, dans les autres étapes de l'histoire. C'est-à-dire pas seulement l'Égypte, mais aussi Babel, mais aussi la Perse, mais aussi la Grèce et aussi Rome. Le Maral dit, et ils ont raison d'avoir expliqué comme ça, que mon cher Akadosh Baruch Hu l'Abraham chez vous de Mitzrayim, parce que de même que Dieu a indiqué à Abraham l'asservissement de l'Égypte, car Eralo Shebut Kolomara, de même il lui a montré aussi l'asservissement des autres empires. Yakol, ou Nimshar, Minashoresh, car tout possède de la racine une identité. Veralo Kolacher, Imacher, Lezalon. Et Dieu a montré à Abraham tout ce qui adviendra de ce point de départ à sa descendance. C'est pourquoi leur opinion était Gamken aussi Sheaya Chet Nimsa Be'Abraham, que ce que j'ai appelé la faille d'identité, pour traduire le mot de faute, non pas au niveau de l'acte mais de la conduite, que cette faille d'identité se trouve en Abraham, qui est la racine de l'identité. Bishbilkar Nimsa Aronel Be'Zavon. Et c'est pourquoi on trouve dans sa descendance ce qui apparaîtra comme punition de cela. Mais encore une fois, vous remarquez que c'est moi qui ajoute cette explication, pendant le Maharal, cohérent en français, si j'ose dire. Il faut réintégrer toujours cette dimension de l'éventualité, quand dans la descendance, cela se dévoilera en mal, alors la conséquence apparaît comme une punition. Au niveau des patriarches, cette conduite était une vertu. Mais lorsque, dans la descendance, cela se dévoile en faute, alors la conséquence apparaît comme, je dis, c'est suffisamment clair. Rappelez-vous, en tout cas, je ne l'ai pas encore cité jusqu'à présent, mais je vais le faire maintenant, par quel verset la Torah indique que jamais les fils ne payent pour la faute des pères. C'est par le verset qui dit « Boked avonavot albani » qui tient compte de la faute des pères chez les fils. Et ça veut dire qu'ils tiennent compte de la faute des pères chez les fils quand les fils la font. Il y a une unité de lecture en hébreu, avonavot, la faute que les pères avaient l'habitude de faire. Le fils ne peut pas plaider en disant je suis irresponsable, j'ai appris ça de mon père, parce qu'il n'y a pas d'hérédité morale jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Ensuite, l'habitude fait qu'on a changé de nature, on n'est plus jugé. Mais jusqu'à la troisième et la quatrième génération, c'est-à-dire la distance de temps qui relie un petit-fils à son grand-père ou à son arrière-grand-père, il y a encore la connaissance personnelle. On ne peut pas plaider en disant « Mon père, mon grand-père a fait comme ça, je fais aussi. » Vous avez bien compris, le Talmud est très clair et une calomnie sur ce verset. Le Talmud est très précis. Lorsque les fils refont la faute des pères, on leur en tient compte. Je pense que c'est suffisamment clair. Non ? Pas encore. Alors, ça vaut la peine de l'éclaircir. C'est le verset qui se trouve dans le texte des 10 commandements et qui dit que Dieu est poked, tient compte, avon avot, de la faute des pères, albanim, sur les fils, al shleshim ve al riveim, les sonneurs, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. On serait tenté de croire, mais c'est une calomnie, Mais ça veut dire que les fils payent pour les pères jusqu'à la troisième et la quatrième, génération. Mais nous avons tellement de versets dans la Bible qui s'opposent à cela. Ne dites pas, les pères ont mangé du raisin vert, et c'est les fils qui ont les dents agacées, et les dents des fils sont agacées. Ne dites pas, dit le prophète. Ça veut dire qu'on avait l'habitude de le dire. Déjà, à cette époque, on ne savait pas lire la Bible. Et alors, le Talmud explique que ça veut dire, lorsque les fils refont la même faute que les pères, on en tient compte quand même. Parce qu'on pourrait plaider en disant, je suis responsable, j'ai vu faire comme ça chez moi. C'est clair. Donc, c'est juste le contraire. L'évidence serait qu'on ne doit pas tenir compte chez un fils de la faute qu'il refait par imitation du père, parce qu'il pourrait plaider en disant je suis responsable, c'est ça que j'ai vu. La Torah dit tu es responsable quand même, parce que toutes circonstances connues, il n'y a pas d'hérédité morale. Bien sûr, on va juger chaque cas, toutes circonstances connues, mais chacun est responsable de ses actes, malgré tout. Seulement, ça ne va que jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Parce qu'après, la nature a changé. On a tellement, fonctionné d'une manière tordue qu'on s'est tordu définitivement. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est pourquoi le verset dit que jusqu'à la troisième. Si vous réfléchissez bien, c'est le temps de l'assimilation. Vous connaissez tous ces juifs qui vous diront « Mon grand-père, mon arrière-grand-père, ce saint homme. » Vous connaissez ça, bien. D'ailleurs, c'est un mystère. Tous les juifs ont un grand-père rabbin. Heureusement qu'il était rabbin, qu'il avait un grand-père juif. Parce que... Et ça veut dire, au bout de 3 ou 4 générations, on a tellement pris l'habitude de s'assimiler, que c'est fini, on s'est assimilé. Vous avez compris? Voilà. Alors, où est-ce que nous étions ensuite? Oui, c'est ce que j'ajoutais. Lorsque la conduite des pères est reprise par les fils, alors arrive l'éventualité que ceux qui, au niveau des pères, pouvaient être une vertu, l'exagération de la vertu est elle-même vertu. Au niveau des fils, il peut y avoir ambiguïté de la conduite, et nous en avons parlé suffisamment, et ça peut se dévoiler comme faute, et donc l'exil arrive comme punition. Tu as attendu. Non, non. Là, je voudrais bien préciser. Écoutez, avant de suivre le texte, et ça j'y pense déjà depuis avant-hier, je vais ouvrir une parenthèse pour vous répondre. Enfin, je crois que c'est important à ce moment de l'analyse. Nous avons souvent étudié la raison pour laquelle l'identité d'Israël n'apparaît qu'à la troisième génération. Il y a d'abord Abraham, ensuite Isaac, ensuite Jacob. Jacob seulement va recevoir le nom d'Israël. Et a posteriori du fait que Jacob reçoit le nom d'Israël, alors Isaac est aussi d'Israël et Abraham est aussi d'Israël. Parce que, là je schématise beaucoup, mais vous me direz si c'est suffisamment clair. L'identité d'Israël, pour apparaître, doit unifier 3 vertus différentes. Ces vertus ont apparu dans les engendrements d'Israël à travers chacune de ces étapes. La première vertu, qui est la vertu d'Abraham, c'est la vertu de Chesed, qui est la vertu de grâce. Ils ont dans le comportement humain de charité. Ensuite apparaît la vertu de rigueur, de justice stricte, qui est celle d'Isaac. Ensuite apparaît la vertu de vérité, qui est celle de Jacob et qui unifie les deux premières. Alors Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, est nommé Israël. Et donc, Abraham tout seul, ce n'est pas Israël. Mais Abraham tout seul, c'est l'authentique juste de la vertu de charité. Et ce qui, pour Abraham, est une vertu absolue, parce que c'est ça la charité, pour Israël peut être une faute, parce que la charité, ce n'est pas l'unité des valeurs. Je veux dire, il peut arriver qu'une charité exagérée soit une faute. Mais au niveau du patriarche, c'est une vertu. Parce que le patriarche est le juste de chaque vertu. Donc, c'est le rôle d'Abraham d'être Abraham, pas d'Israël. Si Israël se conduit que comme Abraham, il est en faute. Ça ne veut pas dire qu'Abraham est en faute. Est-ce que c'est plus clair? Et je vais vous donner un exemple très simple. le plaidoyer d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Pour qui plaide Abraham? Pour les pires méchants qu'il y a eu sur terre. Est-ce qu'on a le droit de plaider pour ça? Mais Abraham, c'est son devoir. Parce qu'il est l'homme de cette vertu-là. Je ne sais pas, c'est suffisamment clair. On ne prend pas garde à cela. On est fier du plaidoyer d'Abraham devant Dieu pour sauver les Rechaïm de Sodome et Gomorrhe. Mais heureusement que Dieu ne l'a pas écouté. Est-ce que c'est clair? Et vous voyez comment peut apparaître une vertu exagérée qui, parce qu'elle est exagérée, devient une faute. Mais c'est ça, la vraie charité. La vraie charité, c'est la charité exagérée. Il n'y en a pas d'autre. Donc, encore une fois, au niveau d'Abraham, comme syndique de Chesed, c'est pas du tout une faute. Mais si sa descendance joue à ça, alors ça c'est une faute. Vous avez compris? Je voudrais rappeler quelque chose, je ne sais pas si je le dis, ce séminaire, qui m'a beaucoup frappé. Je voudrais citer une phrase de Manès Perper, je ne sais pas si vous les citez cette fois-ci. Nous avons, il y a quelques années, organisé ici à Rachi, un séminaire sur la Shoah. Sur l'Holocauste, comme on dit en français, il ne faut pas dire ça. Et il nous avait dit quelque chose, il a vécu cela. En tant que psychologue, il nous a dit, nous avons été victimes de notre capacité d'espérance. Puisque chaque jour, on se disait, demain, ça ira mieux. Et chaque jour, demain, ça allait pire. Par conséquent, cette espèce de capacité d'espérance, qui en soi est une valeur absolue, est en fait un crime. Parce que c'est la cause de cette capacité d'espérance qu'on s'est laissé prendre au piège. Vous voyez que lorsqu'il faut se conduire en vérité, il ne faut pas se conduire en charité. Par exemple, alors pour Abraham, c'est une vertu authentique, mais pour sa descendance, l'exagération de cette vertu peut devenir faute. Voilà, je crois que je vous ai répondu à votre question. C'est bien clair. Et vous savez à quel point les Juifs, lorsqu'ils tombent dans ce piège, d'être le héros d'une seule vertu au lieu d'être le héros de l'unité des vertus se causent eux-mêmes du tort. Je vais quand même préciser un peu parce que nous vivons ces problèmes-là. Dans le conflit entre Israël et les Arabes, vous n'avez pas d'Arabes. Il n'y a pas un qui accepterait l'éventualité de l'idée de la suppression de l'Arabie pour qu'Israël existe. Mais chez les Juifs, vous avez 4/5 du peuple qui sont prêts à envisager la suppression d'Israël pour que l'Arabie existe. Ça, c'est la descendance d'Abraham chez les Juifs. Vous comprenez le problème? Je pense que c'est clair. Bon. C'est-à-dire, vertu exagérée, univoque, je peux comment dire. Et alors, en tant qu'elle est univoque, elle devient une faute. Vous savez que c'est interdit par le Shulchan Aruch de se suicider. C'est une faute. En yiddish, ça s'appelle devenir un juif suisse, le suicide. Qu'est-ce que vous voulez? La neutralité, qu'est-ce que vous voulez?
J'ai une question,
mais je vais vous dire, mais c'est assez maintenant. Quand on a des parents qui sont malades, ils ne peuvent pas partir en Israël. Est-ce que c'est une vertu exagérée de rester en France pour ne pas leur soustraire la joie? Pas du tout. C'est un cas du Shulchan Aruch. Il faut demander ça à un rabbin qui étudie le cas en question, la loi générale. C'est que c'est pas qu'on a le devoir de s'occuper d'eux, s'il n'y a personne d'autre pour s'en occuper. Parce qu'il ne faut jamais chercher des alibis. Mais lorsque le cas de conscience apparaît, on l'étudie pour lui-même. Vous comprenez? Bien, non, je pensais dans ces exemples à des conduites beaucoup plus globales, générales. Ça nous frappe beaucoup. C'est-à-dire, nous sommes fiers de nos pacifistes, à condition que ce n'est pas le plus grand. Je pense que c'est que à condition qu'ils ne soient pas au gouvernement. Mais nous sommes très fiers d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous permet de dire, chez les Arabes, il n'y en a pas comme ça.
Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, à propos de la prière d'Abraham, heureusement que Dieu n'a pas écouté, est-ce qu'on ne peut pas dire en même temps, heureusement pour le peuple d'Israël qu'Abraham s'est initiatif, et donc, si on peut dire, heureusement pour Dieu, parce que c'est la vocation de toute la descendance d'Abraham qui s'inscrit.
Mais vous voyez, je vous remercie de votre question, parce que ça me permet de dire avec plus de force le contraire de ce que vous avez dit. Je reprends le problème. Vous avez compris ce qui s'est passé. Alors, répétez la question. Justement, absolument pas. Si vous relisez ce texte, vous apercevez que ce que la Torah va nous faire comprendre, c'est une leçon de morale que Dieu donne à Abraham. Si nous lisons ce texte dans une attitude chrétienne, c'est-à-dire ne connaissant comme valeur que la charité, cet Abraham-là dont vous avez parlé est un Abraham chrétien. Est-ce que c'est clair? Mais Abraham n'est pas encore Israël. Je reprends cette analyse. Israël n'apparaît que s'il y a d'abord Abraham, et Abraham doit être Abraham. Ensuite Isaac, et Isaac doit être Isaac. Après Jacob, et Jacob doit être Jacob. Lorsque Jacob est fils d'Isaac, fils d'Abraham, les mots ayant leur sens plein, il se nomme Israël. Alors Abraham est d'Israël. Mais qui est Abraham d'Israël? C'est une charité qui mène à la vérité. Une charité coupée de la vérité et criminelle. Pourquoi? Parce qu'elle couvre tous les crimes. La preuve, le plaidoyer d'Abraham pour les chahim de Sodome et Gomorrhe. Et c'est pourquoi j'ai dit, heureusement que Dieu l'a pas écouté. Parce que si Dieu écoute cette prière d'Abraham, le monde ne serait peuplé que d'assassins. Et vous me dites le contraire. C'est une morale, si vous voulez, que le judaïsme refuse. Ça peut être que théorique dans les livres. Mais dans la cité, vous ne le conduisez pas comme ça. Dans la cité, les criminels de Sodome et de Gomorrhe, vous les mettez en prison. Je pense que c'est clair. C'est à l'église que vous voulez les sauver. Mais dans la cité, vous les enfermez. Alors faites bien attention à cela. C'est pourquoi je dis que la descendance des patriarches est travaillée par ce caractère univoque des vertus. Mais c'est verbal, théorique, abstrait, pneumatique, comme disent les théologiens. C'est du vent. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui. Justement, celle-là, ça veut dire Ishmaël, dans sa nature, est fils d'Abraham du point de vue de la vertu de charité. Et ce qui lui manque, c'est la vertu de rigueur de la justice. Lorsqu'il se convertit à la religion d'Abraham, il appelle son idéal en arabe avec un mot hébreu, le din, qui signifie la rigueur de la justice. Ça, c'est le musulman. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Et encore une fois, lorsqu'on connaît la typologie de l'identité d'Ishmaël, on sait qu'il porte dans sa nature la vertu de charité. Mais ce qui lui manque, c'est l'idéal de justice. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il cherche son idéal, il le trouve dans la religion de la justice. Et d'après le principe qui est important, c'est que l'homme désigne comme idéal la vertu qui lui manque. Je pense que c'est clair. Et donc, Ishmaël, dans l'histoire, lorsqu'il va se convertir au Dieu d'Abraham avec l'islam, définira la religion comme étant le din, c'est-à-dire le puritanisme, comme vous le connaissez, dans l'islam. Et lorsque ça fonctionne bien. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce qu'on pourrait dire, si j'ai bien compris votre raisonnement, que l'idéologie chrétienne, avec la création de la charité, etc., fait qu'en somme, il s'agit d'une idéologie non pas post-juive, mais pré-juive?
Très bien, absolument. Très bien. Vous savez, le christianisme a l'habitude de dire que le judaïsme est une religion primitive. Et que l'évolution des idées, je cherche le terme des théologiens chrétiens, la pédagogie par la loi, la pédagogie de la loi, mais qu'il faut arriver à la religion de la grâce. Chronologiquement, dans l'histoire biblique, c'est l'inverse. On commence d'abord par la pédagogie de la grâce, et lorsqu'on arrive à la majorité, on reçoit la loi. Je pense que c'est clair, on est d'abord fils d'Abraham, et après fils d'Isaac. C'est très bien ce que j'avais dit. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce que ça, c'est pas exactement le contraire
d'Ismaël? Très bien. Regardez, Esav, c'est l'homme de la rigueur légale, à qui il manque la charité. Et lorsqu'il veut se convertir à la religion d'Abraham, il prend pour idéal la vertu qui lui manque, c'est-à-dire la charité. Lorsque Rome, le droit romain, a cherché sa rédemption, elle n'a pris de la Torah qu'une mitzvah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est ça qui lui manquait. Je pense que c'est clair. Et lorsque le Romain ou la Romaine réussit cela, il le réussit avec performance. Les petites sœurs des pauvres, c'est des performances de cette vertu-là. Est-ce que c'est clair? Bon. Mais ça dévoile qu'effectivement, chaque vertu isolée mène par excès d'exagération à la faute. Je crois que ce moment de l'analyse était important. Alors s'il en est ainsi, je vais peut-être deviner votre question, s'il en est ainsi, quel est le cas d'Israël? D'après ce principe que l'homme cherche son idéal dans la vertu qui lui manque. Eh bien, c'est très simple. Quelle est la vertu qui nous manque? C'est l'unité. Vous avez remarqué cela? Parce que les autres, ça ne les concerne pas, cette preuve-là. Les autres ont d'autres preuves à faire, qui sont capables d'être charitables, qui sont capables d'être justes. Le problème de l'unité du genre humain, ça c'est Israël. Parce que mettez trois goïms ensemble, vous aurez trois goïms séparés. L'ONU, okay? Mettez trois juifs ensemble, vous aurez peut-être une communauté juive un jour. Non, mais quand je dis trois juifs, ça veut dire trois juifs aussi différents que les trois goïms. Si vous mettez, je ne sais pas comment dire, un Tunisien, un Algérien, un Marocain ensemble, ça ne vous fait pas l'Afrique du Nord, si c'est des goïms. Si c'est des juifs, ça peut vous faire peut-être la municipalité de Bercheva. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, cette preuve-là, nous avons à la faire. Mais... Non. Et je reprends cette analyse. D'après la typologie biblique, je ne dis pas d'après les livres de catéchisme, Ishmaël, descendant d'Abraham, possède la capacité de vertu de charité naturellement. C'est dans son être. C'est l'héritage d'Ishmaël, fils d'Abraham. Ceux d'entre vous qui ont entendu parler de la hospitalité des Arabes, qui est proverbiale, sachez que c'est vrai. Mais passez la tente du chef bédouin qui vous a donné l'hospitalité, si vous n'êtes pas protégé par un contrat spécial d'alliance de protection, vous êtes sans protection. Dans la tente, l'hospitalité absolue. Mais dehors, dans la cité, aucune règle morale. À moins qu'il y ait un contrat. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Ça veut dire que c'est une manière d'être homme qui est naturellement charitable, mais à qui il manque la perception de l'autre vertu, celle de la rigueur de la justice. Et c'est pourquoi lorsqu'Ishmaël va désigner son idéal religieux, c'est cela qu'il va désigner, la rigueur de la parole donnée. Ça, c'est la religion de l'islam. C'est l'indice que ça manque dans la nature de l'homme en question. Inversement, pour le chrétien. Le chrétien, et je crois que l'exemple le plus clair, c'est d'abord le romain. Le romain, pour comprendre ce que c'est, aux yeux d'un juif, il suffit de dire le droit romain. C'est la légalité à la place de la moralité. Et avec la légalité, vous envoyez n'importe qui en enfer. Lorsque Rome a cherché sa religion, elle l'a trouvée dans le principe de charité. Donc il y a une cohérence absolue de cette complémentarité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Vous savez, on pourrait formuler ça de cette manière. Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai ce que tu n'es pas. Que ce que tu n'es pas encore. Okay? C'est une exigence de rédemption. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un musulman plus un chrétien, ça ne fait pas un juif. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est clair. Ça veut dire que nous avons là, par deux côtés différents, deux rivalités à Israël. L'une par Ishmaël et l'autre par Esaü. Et il arrive qu'elle s'allie contre Israël. Mais comprenez bien cela. Leur statut par rapport à l'alliance de la Bible est très différent. Et ça n'a rien à voir avec Israël. Bien que ça ait une prétention, dans le sens de prétendant, okay, à remplacer Israël. Là, ça pourrait être le sujet d'un séminaire pour lui-même. C'est-à-dire le problème de l'unité des valeurs. Mais je crois que c'était important que vous le disiez, c'est plus clair maintenant. Bien. Alors, on va quand même terminer le paragraphe avant de voir la suite. Ouma, chez Ouksha, et ce qu'on a objecté à tout cela, qui est Khevchar, chez Abraham Nehenash. L'objection qui consiste à dire, mais comment est-il possible qu'Abraham soit puni? Faré d'Abraham Nehemar, n'est-ce pas qu'il a été dit à propos d'Abraham, Besseval Tova, Tikaber, tu seras enterré en bonne vieillesse. Ça veut dire que l'histoire de la vie d'Abraham jusqu'au bout nous montre qu'Abraham n'était pas dans le cas de recevoir un châtiment quelconque. Mais comme c'est relié à votre question, à son niveau, c'était vertu. Vélo tiré colléré, et tu ne verras pas tout cela, tu ne verras pas toutes ces catastrophes de l'éventualité de l'exil. Vech Nehemar, Shahot et Yamut, Besevatora. Comment on peut dire que quelqu'un qui aurait fauté mourra en bonne vieillesse? Oui, Isha et Rachet Levanam, et que la faute resterait à ses descendants. Vous voyez, le mythe du péché originel. Shelo, Radou, à ses descendants qui eux n'ont pas fauté. Kushiazot, Ukshar, Mefaresh, Aniskar. Cette objection, c'était l'objection du commentateur précédent que le Maharal n'a pas cité, dont il a cité l'opinion, mais qu'il n'a pas cité, qui est Abravanel. Et c'est pourquoi il cherche dans Joseph et ses frères la cause de l'exil, parce qu'il ne peut pas la chercher en Abraham, puisqu'il sait qu'Abraham n'a été puni en rien. Vous comprenez le problème? Al-Dibre Hachamim, il a objecté cela contre nos sages. Velo Yadar, qui Benafcho d'Iber. Vous avez averti que le Maharal est pas tendre pour Abravanel. Et il ne savait pas qu'il parle contre lui-même, qu'il est Firoucho, Yakshé, car il doit objecter cela à sa propre explication, celle que nous avons repoussée. Kinatam Taram, ni Penechechatou Benéakov, car l'explication qu'il avait donnée, c'était que les enfants de Jacob avaient fauté. Bimchiratahehem, dans la vente de leurs frères. Raoul Omar. Et il est convenable de dire, ici il y a une expression talmudique qui est citée, que celui qui a mis trop de poivre dans son repas a la langue brûlée. Et Veare, Lohayu, Ashvatim Chaim. Or, les Shvatim, les tribus, c'est-à-dire les fils de Jacob, n'étaient pas encore vivants quand l'annonce de l'exil était donnée à Abraham. Je vais vous donner tout de suite, et comme je fais d'habitude, l'explication de la suite pour que vous organisiez le raisonnement. Le Maharal va nous donner ici un enseignement très important. Pourquoi l'exil, s'il a sa cause profonde dans une faille d'identité déjà au niveau d'Abraham, pourquoi l'exil ne commencera qu'avec les descendants de Jacob? Question corollaire, et pourquoi il ne commence pas avec Isaac lui-même? La réponse, nous l'avons peut-être vue une fois dans d'autres sujets. C'est que la promesse de la terre est toujours corollaire de l'éventualité de l'exil. D'une autre manière, seule la descendance d'Abraham qui a accepté l'éventualité de l'exil mérite cette terre qui a été promise. Or, si Abraham avait commencé l'exil, Ishmaël aurait été concerné par la promesse de la terre. Si Isaac avait été en exil, alors Ésaü.